d'actualité. Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, ravi de vous retrouver. Cette semaine et la semaine prochaine, nous allons vous proposer un regard sur l'année qui s'achève. C'est une tradition depuis que cette émission existe. Je rappelle que vous pouvez l'écouter sur le site de la radio, www.rfi.fr. Ce samedi et samedi prochain, nous serons en compagnie de Yann Mince, le rédacteur en chef du magazine Alternative Internationale, l'excellent magazine, partenaire de l'émission version papier et version numérique. Bonjour Yann.
Bonjour.
Nous sommes ensemble pour revivre ces 12 mois d'actualité, cette semaine et la semaine prochaine, avec quelques images sonores, comme d'habitude. Il ne s'agit pas d'être exhaustif, il nous faudrait 6 heures d'émission, voire plus. Quelle est l'image de 2014 qui vous reste aujourd'hui à l'esprit ?
Oh, il y en a deux, j'arrive pas à en dissocier deux qui n'ont pourtant rien à voir, c'est l'Ukraine. Les événements de l'Ukraine, à la fois les événements positifs sur ce soulèvement démocratique, oui. Et puis les événements plus dramatiques de l'Est de l'Ukraine et de la Crimée. Et puis d'un autre côté, quand même, l'État islamique, la prise d'une partie importante du nord de l'Irak par l'État islamique. Pour moi, elles sont les deux images dominantes, deux images pas très enthousiasmantes, il faut bien le dire.
Alors, heureusement, l'année s'est terminée avec une note d'optimisme, ce rapprochement entre Cuba et les États-Unis. On en reparlera samedi prochain.
Oui, ça, c'est la partie positive, comme d'ailleurs dans un tout autre registre et sur un autre continent qui est chez RFI, l'image du Burkina.
Oui.
Et de la chute de Blaise Compaoré.
Ah, ça, c'est l'événement de l'année pour beaucoup d'auditeurs africains, la plupart.
C'est tout à fait compréhensible. C'est un événement positif qui donne de l'espoir de la démocratisation du continent qui continue. Voilà. L'image de Cuba, effectivement, c'est une image un peu plus compliquée parce que c'est le début d'un rapprochement, mais d'un rapprochement qui se manifeste pour l'instant sous la forme du rétablissement des relations diplomatiques. C'est pas sûr que la levée de l'embargo soit possible en revanche.
Alors, j'ai sous les yeux, Yann, le numéro d'Alternative Internationale. La France pèse-t-elle encore? Et un supplément qui s'intitule et qui pose la question, quel monde en 2015?
Oui, c'est un supplément, un hors-série que nous faisons tous les ans avec nos partenaires de Sciences Po, du Centre d'études et recherches internationales de Sciences Po, qui est une sorte de balayage à la fois thématique et puis ensuite par région, par continent, des principaux événements qui sont passés et qui vont se passer en 2015.
Quand une semaine d'actualité devient donc une année d'actualité, merci de votre fidélité. Yann, difficile donc de commencer une rétrospective de l'année dans le monde en 2014 sans parler de l'Ukraine, vous l'avez souligné, avec des manifestations sanglantes sur Maïdan, une des principales places de Kiev. Manifestations violentes en février avec des tirs à balles réelles de la police. Reportage le 20 février donc de notre envoyé spécial Anastasia Becchio.
Des tirs résonnent dans la rue Institutskaya qui monte de la place de l'indépendance vers la présidence et le parlement. Des manifestants se protègent derrière des boucliers de fortune pour atteindre une nouvelle barricade érigée à la hâte tout à l'heure. Les unités anti-émeutes se sont repliées près des bâtiments administratifs. Vite, de l'eau, des compresses. Qui a une seringue? Dans une grande confusion, les premiers soins sont prodigués aux blessés à même le sol dans le hall du Grand Hôtel Ukraine qui surplombe la place de l'indépendance. Les blessés sont emmenés par dizaines. Le carrelage est maculé de sang. Des volontaires intubent, perfusent, font du bouche à bouche et des massages cardiaques. Mais il est parfois trop tard. Plusieurs corps recouverts de linge blanc ont été placés sous le grand escalier. Les gens qui sont apportés ici ont été blessés par balles. Toute la rue est jonchée de douilles, de fusil Kalachnikov, explique un médecin arrivé en urgence qui se dirige vers un nouveau patient dont la tête repose entre les mains d'un prêtre qui lui récite des prières.
Ukraine donc et Crimée aussi, la Crimée annexée par la Russie après une parodie de référendum d'autodétermination. Reportage le 20 mars cette fois après ce scrutin de notre envoyé spécial Étienne Bouche.
Le discours de Vladimir Poutine, donné un peu plus tôt dans la journée, résonne sur la place Rouge. La Crimée, la ville de Sébastopol, rentre à la maison. Pour les nombreux Russes venus assister aux festivités, c'est un jour historique, celui de la réunification. Nous sommes ensemble. Les couleurs de la Russie se mêlent au drapeau à l'effigie du président russe. Sergueï est fier.
Je suis venu parce que je soutiens Poutine et sa décision d'avoir réintégré la Crimée en Russie. Elle n'a jamais cessé d'être russe. C'était une erreur de Khrushchev et nous l'avons récupérée.
Sur son manteau, Elena porte le mot Crimée entouré d'un cœur. Elle est très émue.
Je suis fière, je me sens proche de tous ces gens dans ce rassemblement. La Crimée Crimée doit appartenir à la Russie. La Crimée est à nous. Je suis tellement heureuse d'avoir vécu jusqu'à ce jour.
Sur scène, les discours politiques teintés de patriotisme ont laissé place à un concert. La manifestation aurait rassemblé plus de 100 000 personnes.
Deux premières images de 2014, donc Yann, l'Ukraine et la Crimée. On va parler de ces deux territoires et de Vladimir Poutine aussi. L'Ukraine d'abord, l'évolution de cette crise.
Je pense que personne n'avait vu venir au tout début de la crise, c'est-à-dire en novembre 2013 du coup. Oui. Ce qui s'était passé, c'est-à-dire ce gel de l'accord d'association, ou ce report de la signature de l'accord d'association avec l'Union Européenne, et ce que ça a manifesté, ce que ça a provoqué en Ukraine même, c'est-à-dire un soulèvement contre le régime du président Yanukovych, qui s'est traduit par d'abord des émeutes, enfin une occupation de la place de Maïdan, ensuite effectivement la répression dont parlait Anastasia Bekio, puis ensuite la chute de Yanukovych. Tous ces événements-là, je pense que ni les Européens, ni les Ukrainiens, ni Poutine ne les avaient vus venir. Et ce qui explique aussi la réaction de Vladimir Poutine, il a pris d'abord ce qui était le plus important pour lui, la Crimée, qui n'est pas importante seulement parce que c'est un territoire où il y a beaucoup de russophones, mais aussi parce que d'abord c'est la base de Sébastopol, qui est une base essentielle pour l'instant pour la flotte russe, pour qu'elle puisse accéder à la mer Noire. Et l'accès à la mer Noire, pour la Russie, c'est une vieille affaire. Ça date de bien avant même l'Union soviétique, ça date de la Russie tsariste. C'est l'accès aux mers chaudes. Parce que la Russie, effectivement, la Russie a des mers froides tout au nord, qui sont glacées une partie de l'année, ou difficiles d'accès. La fameuse route du Nord-Ouest, que le réchauffement climatique va peut-être ouvrir. Mais en attendant, les mers chaudes, celles du sud, elles sont accessibles par la mer Noire. Et donc l'accès à la Crimée, au port de Sébastopol, c'est essentiel pour la Russie. Donc ça a donné lieu à ce référendum bidon, dans la mesure où il n'y a eu aucun observateur international. Enfin, il y a eu des observateurs internationaux, oui, effectivement. La Russie a eu quelques alliés, notamment des membres du Front National Français, je crois, qui sont allés jouer des observateurs en Crimée, mais il n'y a pas eu d'observateurs indépendants. Donc, peut-être que si, effectivement, le référendum avait été libre, peut-être que les habitants de Crimée auraient choisi. C'est possible, mais on ne le saura jamais, puisqu'effectivement, ils n'ont pas pu voter librement, et les opposants... Voilà. Ensuite, la question de l'Est de l'Ukraine, du Donbass, la région de Donetsk et Lugansk, c'est une question différente. Je pense que Vladimir Poutine, quand il a favorisé ces mouvements, espérait que le soulèvement serait plus large, que ça irait jusqu'à Odessa. D'ailleurs, il y a eu quelques émeutes à Odessa, mais globalement, ça s'est focalisé sur Donetsk ou Lugansk. Moi, mon interprétation, c'est que Poutine a pris les gages qu'il pouvait prendre pour affaiblir l'Ukraine. La Crimée, il la voulait pour qu'elle soit réintégrée à la Russie. Donetsk et Lugansk, c'est comme une espèce de plaie permanente qui va faire saigner longtemps pour affaiblir l'Ukraine et ainsi empêcher l'Ukraine d'aller trop loin dans son rapprochement avec l'Ouest.
Et j'attire l'attention des auditeurs sur un article très intéressant dans le supplément d'Alternative Quel Monde en 2015 sur le fait de savoir s'il ne faut pas laisser l'Est de l'Ukraine avec les Russes finalement.
C'est une question que pose Anne de Tinguy, qui est une chercheuse au CERI, une grande spécialiste du monde russe, effectivement, qui se demande si, après tout, est-ce que l'Ukraine a vraiment besoin du Donbass qui lui coûte cher et qui va coûter cher à Vladimir Poutine, parce que ce sont des régions, et la Crimée et le Donbass, l'une annexée, l'autre pas annexée par la Russie, qui vont lui coûter cher à entretenir. Or, les finances russes ne sont plus qu'elles étaient.
Justement, Vladimir Poutine, l'homme de l'année,
Si on pouvait éviter, ce serait mieux.
Aux prises avec la chute du rouble et un problème économique sérieux dû, entre autres, au pétrole.
Alors, il y a plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte. D'une part, l'économie russe était en décroissance, enfin la croissance affaiblissait ou ralentissait beaucoup depuis déjà 2 ans. Donc, c'est pas quelque chose qui est absolument immédiatement lié à la crise ukrainienne. Il y a des causes structurelles, c'est que il y en a deux. D'une part, la Russie est extrêmement dépendante du pétrole, et donc quand les cours du pétrole baissent, comme on le voit aujourd'hui, les caisses se remplissent moins vite, en tout cas à défaut de se vider. Et l'autre chose, c'est que depuis l'Union soviétique, la Russie traîne tout un secteur industriel ancien qu'elle n'arrive pas à moderniser, qui n'est pas efficace, qui emploie beaucoup de monde, qui sont pas très productifs. Et donc ça, c'est quelque chose que Poutine traîne et qu'il a jamais réussi à moderniser, quels que soient ses discours.
Et en plus, il y a les sanctions d'après l'Ukraine.
Et en plus, sont venues les sanctions d'après l'Ukraine, qui ont une efficacité probablement assez lente et qui se traduisent surtout par la difficulté pour les firmes russes d'accéder au crédit international, à l'argent des banques. Et ça, effectivement, ça va affaiblir la Russie, mais sur le moyen terme.
Alors du coup, Yann, les Jeux Olympiques de Sochi en février sont déjà oubliés, c'est déjà loin.
Sauf éventuellement par les Russes qui se souviennent que ça a été organisé quand même, que ça a coûté cher, que ça a pris du temps, que jusqu'au dernier moment on a pensé que ça serait difficile, et ça a quand même fonctionné, il faut le reconnaître.
une année d'actualité.
Et nous allons partir pour l'Égypte maintenant, Yann, avec l'adoption d'une nouvelle constitution. Reportage au Caire de notre envoyé spécial Daniel Valo, le 19 janvier.
Un bébé dans les bras, le drapeau égyptien sur les épaules, Mona est venue en famille sur la place Tahrir. Pour elle, il était logique de venir célébrer sur la place emblématique de la révolution égyptienne, la victoire du oui.
Je suis là pour la nouvelle constitution. Le oui a gagné parce que c'est le cœur des Égyptiens qui a parlé. Je suis vraiment heureuse et je voudrais dire à l'Amérique, à tous ceux qui sont contre nous, que l'Égypte est un grand pays et que le oui a gagné avec 98% des voix.
Les quelques centaines de personnes rassemblées sur la place Tahrir après l'annonce des résultats n'ont pas tardé à scander le nom de leur héros, le général Sissi, l'homme qui a chassé les frères musulmans du pouvoir. Pour eux, il ne fait aucun doute que le chef des armées égyptiennes sera candidat à l'élection présidentielle.
On ne lui demande pas d'être candidat, on le lui ordonne. Il ne pourra pas échapper à cette responsabilité parce que c'est un patriote, vous savez. C'est une mission pour lui, cet homme-là, il aime son pays et il sera un grand président.
Pour les partisans du général Sissi, la victoire du oui n'est qu'une étape de plus vers le triomphe annoncé de leur champion. Et déjà la presse égyptienne évoque une accélération du calendrier électoral avec une organisation dès le mois de mars prochain de l'élection présidentielle.
Alors, autre pays dans l'actualité en 2014, donc Yann, l'Égypte, ce référendum et la victoire finalement à la présidentielle avec 96% des voix d'Abdel Fattah al-Sissi, président dictateur ou...
Président élu, la question c'est qui est-ce qui peut s'exprimer aujourd'hui en Égypte, et on l'a vu ensuite à partir du moment où le maréchal Sissi est devenu président, que la liberté d'expression n'a cessé de se réduire en Égypte. Et aujourd'hui, il devient de plus en plus difficile d'être un opposant et d'être notamment un opposant islamiste, parce qu'effectivement, il faut rappeler quand même que une partie importante des Égyptiens ont voté pour les frères musulmans, oui, quand le scrutin était libre, qu'on peut peut-être estimer, c'est difficile de faire des projections, mais entre 20-25% de la population peut-être qui se sent proche des frères musulmans, c'est quand même beaucoup de monde. Et le risque, évidemment, si tous ces gens-là ne peuvent pas s'exprimer, notamment les plus jeunes, c'est qu'ils se tournent vers des formes d'expression plus radicales, armées, ce qu'on voit dans le Sinaï, notamment. Et effectivement, c'est un risque pour l'Égypte que si les islamistes ne peuvent pas participer au processus institutionnel par les urnes, ils choisissent les armes. Et ça, à mon sens, c'est une grande responsabilité qu'a pris le maréchal Sissi.
Une année dans le monde.
Avec une question, Yann, et un mystère, la question est celle-ci. Qu'est devenu le vol MH370 de la Malaysia Airlines? Il est porté disparu depuis le 8 mars dernier. Il avait à son bord 239 personnes. Écoutez cette correspondance de Karine Houghton au premier jour de cette disparition entre la côte orientale de la Malaisie et le Vietnam.
La nouvelle est importante, on l'attendait. Les traces d'hydrocarbures retrouvées et analysées depuis hier soir ne proviennent pas du MH370. Les tests révèlent qu'elles appartiendraient à un navire. Reste que depuis le début des opérations de recherche, nombreuses sont les désinformations, ces nouvelles qui tombent au compte-gouttes, qui font le buzz et qui s'infirment. Comme cet objet jaune flottant qui a fait croire l'espace d'un instant qu'on aurait pu avoir repéré un radeau de secours de l'appareil, mais il s'est finalement avéré être une bobine de câble lorsqu'elle a été repêchée. Le directeur de l'aviation civile de Malaisie, qui coordonne les opérations de recherche, a répété qu'il fallait rester extrêmement prudent, mais bien sûr qu'aucune piste n'était négligée.
. 2014 aura été aussi l'année de l'abdication du roi d'Espagne, un pays que vous aimez beaucoup, Yann, Juan Carlos, au mois de juin. Écoutons-le.
Quiero lo mejor para España.
Je veux le meilleur pour l'Espagne. Toutes mes capacités, mes espoirs, mon travail, je les ai mis au service de ce pays. Lorsque j'ai eu 76 ans en janvier dernier, j'ai pensé qu'il était temps de préparer la relève pour laisser place à mon fils, le seul qui soit en position d'incarner la stabilité qui caractérise l'institution monarchique. Il a la maturité, la préparation et le sens des responsabilités nécessaires nécessaire à assurer son rôle et permettre l'ouverture d'une nouvelle étape faite d'espoir où l'expérience acquise par le passé côtoiera l'impulsion d'une génération nouvelle.
En la que se combinen la experiencia adquirida y el impulso de una nueva generación.
Alors, je me sens très intéressé par cette succession, Yann. Juan Carlos qui a comme successeur son fils, donc Philippe VI.
Oui, c'est une succession qui m'intéresse parce que j'ai une partie de mes origines sont en Espagne. Donc, et surtout, je me souviens de 1969, j'étais gamin, mais j'étais en Espagne au moment où Franco, qui était encore le dictateur à l'époque, a dit que son successeur serait ce jeune garçon, parce qu'à l'époque, Juan Carlos était jeune. Et ça faisait un peu rire tout le monde, parce que tout le monde se disait, voilà, une fois que Franco sera mort, ce garçon sera balayé. Et en fait, il n'a pas du tout été balayé. C'est quand même lui qui a assuré la transition, et c'est pour ça que la fin de son règne est triste, parce qu'effectivement la fin de son règne n'est pas digne de ce qu'il a fait dans les années 70, enfin 76, 81.
Avec des affaires, une image qui a été très écornée.
Une image de sa famille écornée en partie, d'une part par lui, par des histoires de chasse en Afrique qui coûtaient très cher, par des détournements d'argent faits par son gendre, etc. Mais tout ça, malheureusement, fait oublier ce qu'il a fait au moment de la démocratisation de l'Espagne, au moment du coup d'État de 81,
en plus,
quand il s'est clairement opposé à une prise du pouvoir par l'armée, par des nostalgiques du franquisme. Donc il est parti trop tard. En fait, il aurait dû partir plus tôt, abdiquer plus tôt pour son fils, le jeune roi Philippe, qui pour l'instant, semble-t-il, a plutôt une bonne image.
Alors la disparition du vol MH370, quelle histoire!
C'est une énigme.
Beaucoup
d'autant
d'auditeurs
plus...
se sont interrogés, ils nous ont écrit pour se dire, mais comment au 21e siècle une chose pareille peut-elle arriver?
Alors moi je suis pas du tout spécialiste des questions aéronautiques techniques. J'ai cru comprendre qu'effectivement les gens qui étaient aux commandes de l'avion ont débranché un système de communication. Moi ce qui m'intrigue plus, c'est psychologiquement, je suppose que pour détourner un avion comme ça, il faut que le pilote et le copilote soient d'accord, ou que l'un des deux ait neutralisé l'autre. C'est surtout ça qui m'inquiète. Comment est-ce que effectivement cet avion a pu continuer à voler alors que il fallait au moins qu'il y ait quelqu'un aux commandes, je suppose, et voir que les deux soient d'accord. Si effectivement c'est une histoire politique ou je ne sais quoi, je suis surpris que deux personnes, pilote et copilote, puissent prendre une telle décision ensemble. Ce serait psychologiquement un phénomène très intriguant.
Alors à suivre de toute façon dans nos journaux, on ne sait jamais, il peut y avoir des rebondissements, sait-on jamais encore une fois. Alors je reviens, on va conclure là-dessus, la deuxième partie de l'année dans le monde, ça sera samedi prochain, Yann, sur un papier, un article de Pierre Grosser dans le supplément d'Alternative Internationale, Quel monde en 2015, sur le monde multipolaire. L'est-il finalement ou non?
Alors c'est très compliqué. Tout dépend ce qu'on appelle un pôle. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a plus une puissance hyper dominante. Les États-Unis ne dominent pas le monde, même si c'est le pays le plus puissant en termes relatifs. Ensuite, Laurent Fabius dit volontiers qu'on a un monde apolaire, c'est-à-dire sans plus aucun pôle. Je ne crois pas que ce soit très exact. Il me semble que ce qu'on a surtout aujourd'hui, c'est une grande puissance, une hyperpuissance qui n'a plus les moyens de sa politique, même si elle a des ambitions planétaires. C'est un peu la seule qui a des ambitions planétaires. Les autres puissances, si on prend la Russie, la Chine, sont plutôt des puissances régionales. C'est-à-dire qu'elles ont pas, elles ont des intérêts économiques partout, bien entendu. La Chine a des intérêts économiques en Afrique.
Bien sûr.
La Russie a des intérêts parce qu'elle vend son gaz ou son pétrole un peu partout. Mais en même temps, ce sont des puissances dont l'intérêt majeur stratégique, c'est leur environnement proche. On est un peu dans ce qui était la doctrine de Monroe pour les États-Unis avant. C'est-à-dire
l'arrière-cour.
Les États-Unis d'arrière-cour, voilà. Et là, c'est l'arrière-cour de la Chine, c'est l'arrière-cour de la Russie. Les Ukrainiens sont en train d'en payer le prix fort. Et pour l'arrière-cour de la Chine, c'est toutes ces menaces autour des îles de mer de Chine orientale ou méridionale, avec cette volonté de la Chine d'imposer son leadership et la résistance notamment du Japon et de la Corée qui n'ont envie de faire des affaires avec la Chine, parce que c'est un énorme marché, mais certainement pas de subir son joug.
Yann Mince, nous allons marquer une pause, écouter quelques nouvelles de ces dernières heures cette fois, et on se retrouve dans 3 minutes. A tout de suite. Merci pour toutes ces informations. On se retrouve pour une année d'actualité avec la rédaction.
Pierre-Edouard Deldic.
Ce samedi et samedi prochain, nous revenons sur les principaux événements de l'année 2014. Nous sommes en compagnie de Yann Mince, le rédacteur en chef du magazine Alternative Internationale. Nous allons nous intéresser aux événements en France et en Afrique pour cette première partie de cette émission spéciale. En France d'abord, deux élections et deux défaites cinglantes pour les socialistes au pouvoir. Au municipal en mars, victoire de l'UMP et du FN qui gagnent quelques villes, dont Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais. Reportage de Pierre Virsion.
Il est un peu plus de 22h hier soir. Militants et sympathisants du Front National exultent au moment où leur champion fait une nouvelle apparition. Les dames se battraient presque pour aller l'embrasser. Le champagne et la bière coulent à flot. Comme beaucoup de gens ici, Dominique attendait cette victoire depuis longtemps.
C'est plus qu'une victoire, c'est l'apothéose. C'est ce que les Zéninois cherchaient depuis bien longtemps. Une gestion saine, équilibrée, avec à la tête un maire propre.
Ce succès acquis dès le premier tour va changer bien des choses, explique Alain, un routier actuellement au chômage.
On va se retrouver chez nous. On ne demande pas à être respecté, mais être considéré comme des vrais Français.
Changement de décor à 2 km de là. Le maire sortant, Eugène Binès, quitte la salle des fêtes dès les résultats proclamés. Avant de partir, il défend son bilan, des trémolos dans la voix.
On a travaillé à cette ville, on a redressé cette ville. On donne un joyau à ceux qui arrivent derrière.
Il règle ensuite ses comptes avec le candidat frontiste.
Rappelons-nous ici que M. Briouat ne m'a jamais reconnu comme un maire légitime. Je ferai partie de son conseil municipal. J'aurai probablement l'occasion de lui dire des choses sympathiques.
Autour de lui, son équipe lui rend hommage en scandant son prénom. L'émotion est palpable, certains membres de son entourage pleurent. La gauche perd l'un de ses bastions historiques du Pas-de-Calais. Et ce n'est peut-être là qu'un début. Dans d'autres communes du bassin minier, le FN réalise de très bons scores.
Autre élection en France, en mai cette fois, élections européennes et nouvelle déculottée pour les socialistes. Le FN est vainqueur, pas l'UMP, Véronique Rigolet.
Front National, largement.
Combien ? 25.
Devant l'UMP.
20h à l'UMP, c'est la douche froide pour les militants. Le FN a gagné.
Bien sûr que c'est un choc, c'est quand même, on va dire, catastrophique. C'était une réelle claque pour nous.
Une claque que s'empresse pourtant de minimiser Jean-François Copé. Pour le patron de l'UMP, la poussée du FN est avant tout un vote sanction contre le gouvernement socialiste.
Cette élection, c'est d'abord l'expression d'une gigantesque colère de la part des Françaises et des Français. Ils l'ont exprimé à travers ce vote, marquant ainsi leur exaspération devant l'échec de la politique menée par le président Hollande depuis 2 ans.
Une victoire du FN qui affaiblit pourtant un peu plus encore le patron de l'UMP, déjà sous pression dans l'affaire Big Malion. Le bureau politique du parti mardi s'annonce d'ores et déjà houleux, mais le sénateur copéiste Roger Karoutchi de mettre en garde ceux qui voudraient rallumer une guerre à l'UMP.
Je le dis à tous les dirigeants de l'UMP qui ont tous des calculs d'avenir, des ambitions, et c'est légitime, parce que certains se voient président de la République, d'autres ont d'autres ambitions, très bien. Mais la division, l'explosion de l'UMP, c'est la mort de leurs ambitions.
Avis de gros temps pour le parti, l'ex-premier ministre François Fillon réclame d'ores et déjà un changement profond de l'UMP.
Suite d'une année d'actualité, première partie, Yann, donc des élections sur le plan politique, montée du Front National et dans les élections et dans les sondages également, augmentation continue du chômage. Quel est votre regard sur ces deux élections et ces deux défaites cinglantes pour la gauche au pouvoir ?
D'abord, la montée des partis populistes, on va le qualifier comme ça pour faire court, comme le Front National n'est pas une spécificité française, même si en France ça prend des proportions plus importantes qu'ailleurs, mais on voit un parti comme UKIP en Grande-Bretagne, on voit un parti en Allemagne aussi qui vient de cet horizon-là. Ça reflète sûrement plusieurs choses à la fois. Une première chose, et en France singulièrement, c'est la déception par rapport aux deux grands partis politiques, on va dire, c'est-à-dire le PS et l'UMP, que d'ailleurs Marine Le Pen qualifie d'UMPS pour montrer que d'après elle, ils font système. Donc il y a cette déception, une déception qu'on peut expliquer à mon sens par le fait que le système français est en partie bloqué et qu'on a, je crois, en France aujourd'hui une politique souvent de caste. On a l'impression que les gens qui font de la politique, que ce soit l'UMP ou que ce soit OPS, viennent d'un milieu social, de quelques grandes écoles, et que cette caste est un peu fermée, et qu'on s'y bagarre beaucoup plus pour les postes que pour l'intérêt supérieur du pays. Alors, il ne faut pas être naïf non plus, les hommes politiques sont des hommes comme les autres, ils ont à la fois des intérêts personnels, individuels, de carrière, on ne l'empêchera pas. Moi, je ne suis pas convaincu que les hommes politiques soient pire que leurs électeurs. Je pense qu'en démocratie, on a des hommes politiques qui reflètent ce que sont les électeurs.
Bon. On a les hommes politiques qu'on mérite.
On mérite, je crois que la société française est plus individualiste qu'elle ne l'était. On a aussi des hommes politiques peut-être plus individualistes que par le passé. Ensuite, il n'y a pas seulement la question de la crise, il y a effectivement certainement un désespoir social qui fait qu'un certain nombre de gens qui cherchent des solutions radicales, des solutions justes. Je vais faire une comparaison qui va peut-être choquer un certain nombre d'auditeurs, mais je crois qu'il y a beaucoup de points communs entre le succès de certains partis islamistes, je dis pas djihadistes, je dis bien islamistes comme les frères musulmans dans le monde arabe, et d'un parti comme le Front National. Mais ça peut surprendre. C'est quoi l'idée? C'est il faut un grand coup de balai, il faut de la justice, il faut des gens propres, nouveaux, etc. On a vu que la déception, voilà. On a vu que la déception est forte dans les pays arabes qui ont expérimenté les frères musulmans. Je pense que si le FN avait des responsabilités, et il en a dans les mairies, il y aura aussi des fortes déceptions, parce que ce côté les chevaliers blancs qui arrivent tout purs, qui donnent le coup de balai, je crois que ça n'existe pas. Et par ailleurs, en dernière chose, il y a un phénomène culturel. Je crois que les gens ont un sentiment absurde, à mon sens, que leur identité est dangereuse. On entendait l'un des électeurs du Front National parler de vrais Français. C'est quoi des vrais Français? Pour moi, un Français, c'est quelqu'un qui est né sur le territoire national, qui respecte la loi, point final. Ça n'a absolument rien à voir avec une couleur, une origine ou quoi ou qu'est-ce. C'est le contraire de la République de penser que les gens sont Français parce qu'ils sont blancs.
Et c'est dans ce contexte, Yann Mince, que vous nous proposez dans Alternative Internationale, le numéro normal, on dirait pas...
Le numéro de décembre.
De décembre, un dossier passionnant sur la France, avec cette question, la France pèse-t-elle encore? C'est vraiment contre la sinistrose ambiante. Hein.
C'est-à-dire qu'il faut regarder la situation lucidement. La France représente un toute petite proportion de la population du monde, même pas 1%, et elle est encore une des 5 ou 6e puissances économiques, militaires, etc. Donc, il ne faut pas non plus dramatiser la situation. Le problème, je crois, c'est qu'on a une image fausse de ce que la France était dans le passé. La France a été une grande puissance dans le monde parce que c'était une puissance coloniale. Elle avait soumis par les armes, en bonne partie, tout un tas de pays, et les Africains sont bien payés pour le savoir. Donc, aujourd'hui, elle est revenue, elle revient progressivement à sa place, proportionnelle à la taille de sa population, mais c'est encore une puissance qui a de grands atouts. Simplement, elle a des blocages, et notamment ce que je disais tout à l'heure sur cette société, ces élites qui forment une espèce de caste dont une bonne partie de la population a l'impression qu'elle est hors sol par rapport aux préoccupations quotidiennes et aux réalités quotidiennes des Français.
Et je conseille vivement ce dossier.
D'actualité.
Et direction l'Afrique maintenant, Yann Mince, un continent que nous aimons tous, en Centrafrique, qui va vivre une année 2014 difficile, nous en reparlerons la semaine prochaine. Mais d'abord, un fléau RFI n'a pas attendu la deuxième partie de l'année pour vous parler du virus Ebola en Afrique de l'Ouest. Écoutez par exemple ce reportage à l'hôpital Donka à Conakry, reportage signé Sidi Yansané en avril.
Avant de rentrer dans le centre d'isolement, obligation pour tous de se laver les mains et les semelles des chaussures à l'eau chlorée. Mais pour pénétrer la zone où sont effectivement traités les patients atteints du virus Ebola, il faut près de 10 minutes pour enfiler une combinaison jaune, seul rempart contre la maladie. L'hygiéniste Baba Djogobari s'apprête justement à rentrer dans la zone.
Ça nous fait peur. Ça nous fait peur, mais on n'a pas le choix, Philippe, mais on accepte parce que c'est l'humanité avant tout, pour s'entraider.
C'est au pied d'un arbre immense dans l'enceinte de l'hôpital Donka que Médecins Sans Frontières a dressé ses tentes, notamment une pour faire un prélèvement sanguin aux patients présentant des symptômes de la maladie et une autre pour ceux dont la contamination au virus est confirmée et qui subiront un traitement dans la zone d'isolement. Le docteur Asseni Modé Camara est au service des maladies infectieuses de Donka.
Si le cas s'avère que c'est positif, on le garde. On fait un traitement symptomatique. Si c'est la fièvre qui vient, on traite la fièvre. Si c'est le vomissement, on cherche à réhydrater pour ne pas que le malade succombe.
La lutte continue également dans les quartiers pour retrouver les personnes qui ont fréquenté le malade. Lucie Perardel est infirmière pour Médecins Sans Frontières.
La Croix-Rouge va aller tous les jours suivre les contacts dans les différents quartiers et on va voir s'ils développent des symptômes. À partir du moment où ils vont développer les symptômes, on va nous les référer à l'isolation.
Ebola toujours, mais plus tard dans l'année, au plus fort de l'épidémie, avec ce reportage de notre envoyé spécial en Guinée, Olivier Roger, avec cette fois un reportage dans la capitale, en octobre.
Ah,
Yimbaya est un immense marché dans la banlieue de Conakry. C'est ici, dans cet univers grouillant et à la salubrité plus que douteuse, que les commerçants venus de la Guinée forestière écoulent leurs marchandises. Depuis l'épidémie d'Ebola, le quartier a connu plusieurs cas de malades, tous venus de la région forestière. Derrière les étals, les commerçantes ne cachent pas leur peur.
Nous avons peur des vols. On lave les mains toute la journée. On lave les mains d'ici.
Les autorités ont désormais interdit la viande de brousse, comme le singe, que l'on ne trouve plus à Yimbaya. De même, les responsables du marché, comme Madame Camara, imposent aux camionneurs venus de la forêt des mesures d'hygiène.
On n'a pas peur. Parce que chaque fois quand ils viennent, on est protégé. On les oblige de laver leurs mains avec de l'eau de Javel, avec le savon. Dès qu'ils viennent, on les fait rentrer dans le bureau, ils se lavent avec l'eau de Javel. À chaque marché, on pose 10 seaux dans la devanture du marché.
Reste que ces fameux seaux d'eau chlorée ne sont pas faciles à trouver à Yimbaya. L'ambiance est cependant à la méfiance et les commerçantes forestières, même celles qui vivent à Conakry depuis toujours, ne veulent pas témoigner de peur de la stigmatisation.
Une année en Afrique, donc Ebola est un des grands titres de l'actualité 2014. Ebola, plus de 7000 morts à la mi-décembre, il faut le rappeler. Hein. Et ça ne fait qu'hélas qu'augmenter.
Oui, alors avec des évolutions qui sont assez différentes sur le nombre de nouveaux cas d'un pays à l'autre. Ça baisse dans certains pays, ça augmente encore rapidement dans d'autres. C'est une épidémie terrible parce que c'est un taux de létalité, comme on dit, qu'il y a beaucoup de malades, malheureusement, en pourcentage, qui meurent. Je suis pas du tout spécialisé questions médicales, mais j'ai cru comprendre que plus on pouvait repérer tôt un cas, plus on avait de chances de le guérir. Ce qui veut dire qu'il est très important que les populations laissent des centres de dépistage s'ouvrir. Or, on a vu en Guinée ces derniers jours, effectivement, des populations essayer de s'opposer à la mise en place d'un centre d'isolement ou de traitement. Mmh. Or, c'est très important que ça puisse avoir lieu. C'est très difficile face à une maladie qui fait aussi peur, qui fait autant de morts, que les gens n'aient pas une réaction de rejet. Mais il faut arriver, c'est très difficile, à faire passer des messages sur le fait qu'il faut laisser les médecins faire leur travail. Je veux ici rendre hommage à tous les soignants. Il y en avait un qui témoignait dans le premier reportage, dont un certain nombre sont morts en s'occupant des malades. Et c'est extrêmement préoccupant. Ça veut dire aussi que les systèmes de santé des trois pays concernés, qui sont des pays qui ont connu la guerre et donc en plus des difficultés économiques, des désordres considérables désordres, ces systèmes de santé sont très fragiles et les soignants payent un prix très fort de ce
fait. Un médecin qui lutte contre Ebola a été sacré entre guillemets homme de l'année par le magazine américain Time.
C'est normal que les soignants soient ainsi célébrés, si je puis dire, parce qu'ils font un travail remarquable.
Avec cette question qu'on a déjà abordée avec vous, Yann, et qu'on a abordée aussi dans cette émission avec Ronnie Broman sur la mobilisation de ce que l'on appelle la communauté internationale, un petit peu décalée. Hein. Elle existe maintenant.
C'est clair que Médecins sans frontières, notamment, a appelé à sonner l'alarme dès mars, mais qu'il a fallu attendre août. Et je me souviens de l'intervention de Joanne Liu, qui est la présidente internationale de MSF. À la tribune de l'ONU, qui a effectivement poussé un coup de gueule, pour le dire comme ça, et qui a fini par déclencher. Et on a vu effectivement arriver des moyens qui n'étaient pas disponibles jusque-là, notamment des moyens militaires. Il faut reconnaître que les armées, l'armée américaine, mais d'autres, l'armée française aussi, ont des moyens en termes d'hôpitaux de campagne, de moyens de traitement. Et je crois que l'armée américaine, notamment, fait un très beau boulot pour soigner les soignants, justement, qui sont victimes de la maladie.
Alors, on va choisir un sujet plus léger avec un dossier, un article que vous consacrez à l'Ouganda et à la récupération. On avait déjà parlé il y a 15 jours, 3 semaines dans cette émission. Récupération des objets.
De toutes sortes de déchets, notamment plastiques.
Et récupérés pour la mode.
Voilà, alors c'est entre autres récupérés pour la mode parce que, effectivement, on voit sur les photos que nous publions, sur le reportage, de 6 pages de photos, on voit des modèles, des jeunes femmes extrêmement jolies, qui sont habillées avec des robes très étonnantes, très exotiques, faites avec des récupérations de plastique de toutes sortes. Tout ça est arrangé avec beaucoup de goût par des stylistes. Mais il y a des choses un peu moins superficielles. Il y a d'autres choses de récupération qui servent à l'éclairage, qui servent au chauffage, etc. Ça veut dire qu'effectivement, en Afrique aussi, on s'inquiète de la récupération des déchets qui existent, évidemment.
Et ça, c'est une des singularités de votre magazine. C'est que vous vous intéressez aux sociétés africaines, à la vie de tous les jours aussi.
Pas seulement à la politique, à ce qui se passe dans la vie des Africains au jour le jour.
Pour réagir à l'actualité, semaine.actu@
info@rfi.fr.
Merci pour vos messages, continuez à nous écrire. Vous avez été nombreux à retenir le renversement du régime au Burkina Faso. On en reparlera la semaine prochaine. Je salue quelques auditeurs. Un salut à Mouktar, à Richard Toll au Sénégal. L'aventure de Rosetta et de Philae sur la comète Chury a attiré son attention. Faut pas l'oublier, Yann, c'est un événement important de l'année. Bonjour à Hugues à Bamako. Il a réagi au départ du pouvoir des chefs d'État africains en général et pas simplement au Burkina Faso. Alors, beaucoup d'auditeurs nous ont écrit à propos d'Ebola, Junior, Abdoul à Dakar, Ibrahima à Conakry. Ibrahima note aussi la recrudescence des accidents de voiture en Guinée cette année. Bonjour à Amadou à Nouakchott, pas de régime fort mais une population forte en Afrique, écrit-il. Un salut à Archiduc Théodore, pour lui un des événements majeurs de l'année en Afrique c'est l'abandon des poursuites de la CPI contre le président Kenyatta. Bonjour à Frédéric à Strasbourg, l'Union africaine ne sert à rien, écrit-il. Enfin un salut à Diallo à Conakry, il a été marqué par la crise ukrainienne, par Ebola et la situation au Burkina Faso, mais aussi par différents sommets africains sur la paix et la sécurité à Dakar, à Abuja et à Nouakchott. Suite d'une année en Afrique, au Nigeria, cette fois, Yann, Nigeria en proie à la violence de Boko Haram, quasi quotidiennement. Ce qui a surtout frappé le monde, c'est bien sûr l'enlèvement de 276 lycéennes à Chibok en mai, correspondance de Julie Vandal.
L'enlèvement a eu lieu ce lundi soir dans la localité de Chibok, au sud de l'état de Borno, dans l'extrême nord-est du Nigeria. Selon une source policière interrogée par RFI, des hommes armés soupçonnés appartenir à la secte islamiste Boko Haram ont attaqué et incendié le lycée gouvernemental. L'établissement était fermé en raison des violences dans la zone, mais il accueillait ces jours-ci 129 jeunes filles venues passer l'examen de sciences du baccalauréat. Au cours de l'assaut, les islamistes ont incendié le lycée, puis ils se sont enfuis avec les adolescentes massées dans des camions et des bus. Selon des témoins, un camion serait tombé en panne, permettant à certaines lycéennes de s'échapper. Nous pensons que près d'une centaine de jeunes filles ont disparu, a indiqué Moussa Koubo, le commissaire chargé de l'éducation pour l'état de Borno. Nous sommes en train de vérifier leur nombre exact, a-t-il ajouté. Si le groupe islamiste Boko Haram a souvent pris pour cible des écoles au cours de son insurrection, l'enlèvement massif de jeunes filles est peu fréquent, mais il semble se multiplier. En février dernier, une vingtaine avait été kidnappée après une attaque dans le village de Kondouga, dans l'état de Borno.
En avril, réélection sans surprise aucune d'Abdelaziz Bouteflika à la présidence de l'Algérie. Écoutez sa prestation de serment en présence du président de la Cour suprême de l'Algérie, Slimane Moudi.
Bismillahirrahmanirrahim. Wafa'an li tadhiyat al-kubra.
Wafa'an li tadhiyat al-kubra.
Wa li arwah shuhada'ina al-abrar.
Continuons notre voyage en mai, cette fois en Afrique du Sud. Yann Mince, élection législative, victoire de l'ANC, plus de 60% des voix. Et en juin, réélection de Jacob Zuma à la présidence.
Je déclare donc Jacob Zuma élu président de la République d'Afrique du Sud.
Une année en Afrique.
Pour l'anecdote, Yann, notez que beaucoup d'auditeurs nous ont écrit pour dire que la disparition de Mandela était l'événement de l'année 2014. C'est symptomatique.
C'est symptomatique, oui.
Alors
bien
que
sûr.
Ça remonte évidemment à l'année dernière.
Oui, mais bon, je pense que ça a tellement, c'est tellement un personnage important dans l'histoire de l'Afrique, pas seulement de l'Afrique du Sud, mais du continent africain et au-delà, je dirais.
Donc mort en 2013 et toujours homme de l'année en 2014.
Que ça ait frappé les esprits, effectivement.
Ouais. On va commencer avec l'Afrique du Sud, donc stabilité.
Stabilité, mais comment dire, stabilité qui prépare un avenir peut-être un peu moins rose pour l'ANC. Je pense que l'ANC avec Jacob Zuma arrive en fin de course. Alors c'est encore un parti dominant. Il n'y a pas encore de parti d'opposition qui est vraiment mordu, si je puis dire, sur l'électorat et notamment sur l'électorat noir. Mais il est un personnage qui fait beaucoup de bruit en Afrique du Sud, qui est Julius Malema, oui, qui est l'ancien patron de la Ligue des Jeunes de l'ANC, qui aujourd'hui a fait scission, qui a fondé un parti qui fait beaucoup d'agitation, qui s'appelle les Economic Freedom Fighters, les combattants de la liberté économique, ce qui est assez symptomatique. On n'est plus sur la liberté juridique ou politique, mais sur la liberté économique. Et qui, bien que lui-même ait une, je crois, une assez considérable fortune, critique beaucoup les dirigeants de l'ANC qui se sont enrichis, et notamment le probable candidat de l'ANC à la prochaine, au prochain scrutin, qui est Cyril Ramaphosa, un ancien syndicaliste aujourd'hui converti dans les affaires, qui siège dans je ne sais plus combien de conseils d'administration. Donc effectivement, le règne de l'ANC, le bel ANC de Mandela, le combattant, etc.
Mythique, oui.
Voilà, ben voilà, c'est l'exercice du pouvoir, l'usure, l'enrichissement, plus ou moins légal, plus ou moins licite d'un certain nombre de ses dirigeants, et ça finit par se voir parce que, encore, je disais en Afrique du Sud en juillet, encore la, une bonne partie de la population noire vit dans des conditions, même s'il y a une classe moyenne, vit dans des conditions très très sordides.
L'Algérie et la petite voix d'Abdelaziz Bouteflika, dans tous les sens du terme d'ailleurs, par rapport aux militaires sur le plan politique.
C'est assez pathétique d'entendre la prestation de serment d'Abdelaziz Bouteflika. Je crois que c'est pas lui qui gouverne, c'est son entourage qui gouverne. Je crois que notamment son frère a des responsabilités importantes. Alors, en ce qui concerne l'armée, je crois que le clan Bouteflika, en tout cas, essaie de s'en prendre au pouvoir de l'armée, ce qui est en Algérie toujours extrêmement compliqué, parce que l'armée est très puissante, c'est la colonne vertébrale, oui, du régime. Donc je pense qu'on va avoir dans les coulisses difficiles à pénétrer du pouvoir algérien pour les observateurs extérieurs. On va avoir probablement pendant ce mandat, s'il ne se termine pas de façon anticipée par le décès de Bouteflika, une lutte un peu feutrée entre militaires et hommes d'affaires qui ne sont pas militaires, on va dire.
Alors le Nigeria, autre temps fort de l'actualité, si je puis m'exprimer ainsi, avec cette image forte, atroce de l'enlèvement d'enfants, d'adolescentes par Boko Haram, qui continue d'ailleurs ses exactions, même ces
derniers
jours.
Qui a été suivi par des attentats faits par Boko Haram, y compris des attentats faits par des jeunes femmes, ce qui a encore frappé les imaginations. Puis dans des enlèvements d'autres personnes. Ce qui est terrorisant avec Boko Haram, c'est qu'en fait, on n'a pas l'impression qu'en face de Boko Haram, il y a une force militaire capable d'en venir à bout, parce que l'armée nigériane se comporte mal sur le terrain quand elle est vraiment présente, parce que certains militaires ont refusé de combattre, je crois, et puis elle se livre à des exactions sur la population civile, et puis, comme d'habitude, c'est un classique, le pouvoir nigérian a armé des milices dans les villages contre Boko Haram, les milices qui commettent des exactions, et tout ça nourrit pas forcément la sympathie pour Boko Haram, mais le fait qu'une partie de la population ne s'attaque pas à Boko Haram. Boko Haram ne sera vaincu que quand une partie de la population se soulèvera contre Boko Haram. Pour l'instant, on a l'impression que entre l'armée, les milices d'un côté et Boko Haram de l'autre, une partie de la population baisse la tête et attend que ça passe.
Alors, il faut aussi noter, là j'en reviens à votre magazine, Yann, un article très intéressant sur ce que vous appelez, ce que Cécile Leclerc, l'auteur de l'article, appelle le premier des génocides.
Oui, c'est une page sombre de l'histoire africaine. C'est le génocide des Hereros et des Namas au tout début du XXe siècle, en 1904, en Namibie, voilà, absolument. Qui, à l'époque, était une colonie allemande. Il n'y a pas eu beaucoup de colonies allemandes en Afrique, mais il y en a eu quelques-unes avant la Première Guerre mondiale. Et il y a eu un soulèvement des Hereros d'abord, puis des Namas ensuite, qui en avaient marre du traitement que leur infligeaient les colons. Et ça s'est traduit par une répression extrêmement violente des Allemands, avec la mise en place de camps de concentration. Mais oui. Qui ont des méthodes d'extermination qui ont préfiguré ce qui allait se passer malheureusement en Europe avec le génocide juif quelques décennies plus tard.
Alors c'est ça que j'aime bien aussi dans votre magazine, Yann, c'est que l'Afrique a toujours une partie importante dans les pages de.
Bien sûr, l'Afrique est un continent important et qui sera numériquement, démographiquement de plus en plus important. C'est parfaitement logique que l'Afrique ait sa place dans un magazine qui espère embrasser l'ensemble de la planète.
Il y a le Yann Mince, rédacteur en chef, éditorialiste du journal Alternative International, l'amateur de musique, on en parlera la semaine prochaine. Et il y a, faut-il le rappeler, le Yann Mince, auteur de livres pour enfants. Il faut rappeler qu'en 2014, vous avez écrit un nouvel opus quand on veut faire chic.
Quand on veut faire prétention, c'est un petit livre qui effectivement s'appelle Dans vos petites poches, qui est destiné aux lecteurs à partir de 7-8 ans, un petit roman. Et qui parle des jeunes filles pickpocket dans le métro qui sont souvent roms. Et j'essaie de raconter à travers une histoire, d'expliquer aussi pourquoi ces jeunes filles sont là et pourquoi elles ne peuvent pas arrêter ces activités, parce qu'elles sont prises dans un engrenage mafieux qui fait que leurs familles ont reçu une dot. Elles ont fait une sorte de faux mariage. Les parents sont parfois pas conscients que c'est un faux mariage. La famille touche une dot. Les jeunes filles sont emmenées en France et ensuite, évidemment, elles ne peuvent pas rentrer parce qu'il faudrait rembourser la dot. Donc, elles sont prises dans un cercle infernal qui fait qu'à 12, 13 ans, ces jeunes filles, parfois un peu plus, sont dans le métro et qu'il est impossible de les sortir de ce cycle infernal.
Et le livre est publié chez quel éditeur?
Aux éditions Thierry Magnier, qui est là où j'ai publié l'essentiel de mes petits ouvrages.
Alors, que vous apporte justement cette écriture de livre pour enfants? C'est une une récréation ?
Ah, c'est une. Selon les cas, ça permet parfois de pouvoir se laisser aller à la fiction complète. C'est-à-dire,
là, ça en fait du bien. Ça vous fait du bien.
Ça fait du bien de se détacher un peu des affaires du monde, souvent un peu triste. Là, en l'occurrence, pour ce petit livre-là, non, puisque c'est lié complètement à une actualité quotidienne. Cette idée m'est venue en prenant le métro et en voyant ces bandes de jeunes filles. Une fois, j'ai même vu une touriste se faire délester comme ça, son portefeuille à toute vitesse. Donc c'est là, c'est le réel, mais parfois, d'autres livres n'ont absolument rien à voir avec la réalité. C'est le plaisir de, comme je dis parfois quand j'ai dans des classes, rencontre des enfants, c'est le plaisir de raconter n'importe quoi.
Ouais, ça fait du bien quand on est journaliste. Hein. Certains nous disent que les journalistes racontent de toute façon n'importe quoi, mais bon, ça c'est autre chose.
J'essaie de pas le faire dans mon métier.
Alors vous êtes un passionné de jazz et spécialiste de jazz, ça on en parlera la semaine prochaine avec une sélection d'un CD de l'année. Merci Yann, en tout cas, il faut lire Alternative Internationale. On se retrouve donc samedi prochain pour la suite de cette rétrospective, une année d'actualité réalisée bien évidemment par Vanessa Rovensky. Merci à Eugénie Ducret, Laurent Sarniguet, Françoise Delignon et Françoise Bourgaud de la Sonothèque de RFI. On se retrouve demain pour le magazine Idée. Nous vous proposons une rediffusion de notre émission sur Cornelius Castoriadis avec l'historien des idées François Joss, demain dimanche, bien sûr, 17h10, heure de Paris. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant un nouveau journal sur RFI.